France Inter.
Ok, Sex Education. Je pense que ça a réussi à prendre le côté jeune sans en faire quelque chose de trop cringe ou trop gênant. On voit que dans l'écriture, il y a de l'attention aussi qui est portée vraiment à ce que les jeunes pensent aujourd'hui, et ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils voudraient pratiquer peut-être.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, une heure pour décrypter l'air du temps, et aujourd'hui une heure pile, pas une minute de plus, parce que dans l'équipe on ne pense qu'à une chose, rentrer à la maison, mater la saison 4 de Sex Education que Netflix vient de mettre en ligne. Bon, pour nous, c'est aussi l'occasion ou jamais de zoomer sur un sujet encore trop tabou aujourd'hui, et visiblement surtout en Belgique, on y reviendra, l'éducation sexuelle des ados. Alors évidemment, les temps changent, des séries comme Sex Education font bouger les choses, des comptes Instagram comme celui de notre invité, et dont rien que le titre Je m'en bats le clito pourrait entraîner le décès prématuré de Christine Boutin si elle tombait dessus, participe à une libération de la parole autour de l'éducation sexuelle. Mais il reste encore, je dirais, un gap générationnel terrible, un fossé entre la génération de Manon et Quentin qui osent parler de ces choses-là spontanément, avec beaucoup de naturel, voire trop, si vous pouviez lire ce qui se dit dans notre groupe WhatsApp, et la génération d'avant, celle de notre rédacteur en chef Bruno Donnet, qui a connu ses premiers émois devant les Coco Girls du Colaro Show et qui, plus tard, le premier samedi du mois, s'enfermait avec une passoire devant cette chaîne qui deviendra plus tard son employeur, Canal+, clin d'œil du destin. Quant à moi, qui suis pourtant considérablement plus jeune que Bruno, on ne peut pas dire non plus que mon éducation sexuelle fut d'une modernité décoiffante puisque, comme vous le savez, j'ai connu mes premières moiteurs en écoutant au fur et à mesure de Liane Folly. Alors, Liane, je t'embrasse, évidemment, mais le temps a... Temps à passer. Alors, comment parler sexualité à nos ados sans passer pour des ringards? Les mentalités sont-elles vraiment en train de changer, notamment concernant les stéréotypes de genre? Et surtout, comment quelqu'un qui a eu pour support d'excitation Liane Folly a-t-il pu développer à l'âge adulte une sexualité normale? Question bonus, ai-je vraiment une sexualité normale? Waouh! Zoom Zoom Zen, c'est parti!
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Camille Aumont-Carnel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci. Sur Inter cet après-midi. Vous avez 26 ans et vous êtes la créatrice d'un compte Instagram que vous avez baptisé donc « Je m'en bats le clito », auquel sont abonnées 700 000 personnes. Et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les mots du cul » qui paraîtra le 5 octobre prochain aux éditions Le Robert. Pour ceux qui ne vous suivraient pas encore sur Instagram, c'est quoi l'idée initiale du compte ?
L'idée initiale du compte, c'est d'aborder des sujets tabous liés à nos sexualités de façon hyper cash et efficace. Je ne voulais pas prendre trop de temps aux personnes qui lisaient. Et vraiment,
c'est droit au but.
C'est droit au but, c'est hyper cash. Ouais. C'est pas trash, c'est cash. Ouais. Je fais la différence quand même entre les deux. Et c'est des punchs, donc en fait, c'est des phrases courtes et très impactantes qui, pour la plupart, soit vont faire marrer, soit vont gêner, mais c'est pas plus mal, soit vont nous faire dire en fait, on est à peu près toutes pareilles.
On est tous les mêmes.
On est un peu tous les mêmes. Et surtout, c'est cash, c'est efficace, ça prend à peu près quoi, 8 secondes de lecture. Et puis ça permet tout simplement de libérer la parole petit à petit.
Alors Camille, vous allez nous dire comment on parle aujourd'hui de sexe aux jeunes sans les braquer. Juste le temps de vous présenter deux trentenaires qui justement auraient bien aimé avoir votre bouquin à l'heure de leurs premières expériences, pas ensemble, hein, expériences chacun de leur côté. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour
Mathieu, à tous.
Bonjour tout le monde.
Alors Manon, on ne va pas tourner autour du pot, on sait que le vice vous habite. Voilà, ce n'est pas sale, hein, le plaisir des sens, c'est votre dada, c'est comme ça. Hein, vous ne vous en cachez pas dans nos conversations WhatsApp, ni dans vos anecdotes sur François Civil, leur antenne, ni dans ces commandes étranges que vous passez parfois sur Amazon. Je vous cite hier, oh tu sais quoi, j'ai commandé de la céramique auto-durcissante, je suis hyper excité. Je ne sais pas ce que vous faites avec ça. Preuve ultime de votre obsession pour le stupre, en un an de chronique, c'est la première fois que vous allez savoir pourquoi, vous allez rester sur notre thème du jour pour votre veille sanitaire.
Et oui, parce que les réseaux sociaux sont très importants dans l'éducation sexuelle des jeunes aujourd'hui. La preuve avec votre compte, Camille, je m'en bats le clito. Mais est-ce vraiment facile de parler de sexe sur les plateformes qui sont très frileuses quand il s'agit de ce sujet ? Réponse dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Camille, il est très troublé car sa compagne se prénomme également Camille. Mais une Camille plus timide qui, sur Instagram, poste des photos de paysages, de monuments, de petits plats, quelques citations de Paulo Coelho. Pas une Camille qui poste des punchlines comme par exemple « J'ai squirté dans mon lit et j'ai compris l'utilité d'une alaise, merci » ou « Quand ça tape dans le fond, au départ ça fait mal, mais au bout d'un moment, ça fait du bien ». Comment vous dire, depuis qu'il s'est abonné à Je m'en bats le clito, Quentin se demande s'il ne s'est pas simplement trompé de Camille.
Alors,
ma femme s'appelle Camille, c'est vrai.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet miroir?
Oh mon Dieu,
ah, mince.
Oh, je suis grillé. Alors Quentin, comment ça s'est passé dans la rue avec votre petite pancarte Sex Education? Les gens ont cru que vous leur proposiez des cours d'éducation... J'en perds mon latin et mon français, c'est plus gênant.
Des cours d'éducation sexuelle.
éducation sexuelle, ils ont cru.
Le plan trop bizarre.
Ah ouais, la pancarte, vous voulez un cours d'éducation sexuelle. Non, j'ai fait autre chose. Je vous ai fait réagir sur la nouvelle saison de la série qui sort, comme la première. D'ailleurs, c'est un événement et un phénomène de société qui a aussi révolutionné les dimanches sur les après-midi, les plaids, les canapés. Dans la rue, on a parlé sexe et franchement, ça fait du bien.
Le problème, on va en parler dans cette heure, c'est le manque de cours d'éducation sexuelle à l'école. Très peu d'heures y sont consacrées, même si ça va quand même en s'améliorant. À son époque, à lui, non seulement il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle, mais les écoles n'étaient pas mixtes. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Mathieu.
Alors aujourd'hui, vous avez rattrapé votre retard initial, notamment en bossant à Canal+. Et surtout, vous allez nous raconter l'éducation sexuelle, d'où ça sort.
Alors j'ai bien compris Mathieu, que vous aviez été bercé par Liane Folie. Toutefois, pour évoquer notre sujet du jour, vous me permettrez de convoquer plutôt le spécialiste de la question, Pierre Perret.
On nous donne des cours sur le sexe au gay au gay.
Car quand on parle d'éducation sexuelle, il faut d'abord évoquer l'école. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est au corps enseignant qu'incombe la responsabilité d'éduquer nos marmots au mystère des origines du monde.
Une institutrice très sympathique nous elle explique toute la mécanique.
C'est même une obligation, une directive ministérielle, mes enfants, depuis 2001. Mais alors qu'apprend-on à l'école précisément ? Quels sont les mots qui sont utilisés et de quelle sexualité parle-t-on ? Personnellement, lorsque j'étais lycéen, c'est une prof de SVT qui s'était pointée dans la classe avec une banane dans une main et un préservatif dans l'autre. Elle nous avait parlé sida, MST, grossesse non désirée et c'est tout. Il n'avait pas été question de préliminaire et encore moins de plaisir. Le mot n'avait jamais été prononcé, pas une seule fois. Et je me souviens aussi que la sexualité avait été exclusivement envisagée sous un angle strictement hétérosexuel dans lequel la pénétration était la seule figure possible. La banane recouverte d'un préservatif devait donc entrer tout droit dans l'abricot. Un point, c'est marre. Alors, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Pas si sûr. L'école n'est pas toujours très à son aise avec la question quant à l'industrie du porno, sa violence et ses stéréotypes toujours plus virilistes. Elle est aujourd'hui abondamment consommée par des adolescents qui y trouvent des modèles totalement terrifiants. Mais la question de l'éducation sexuelle est aussi infiniment politique. À preuve, cette semaine, 8 écoles de Belgique ont été incendiées par des radicaux catholiques et musulmans qui ont voulu protester contre les cours d'éducation sexuelle qui y sont dispensés. Alors, faut-il craindre la contagion de ces dérives ? Doit-on repenser l'éducation à sa sexualité ? Et comment procéder ? Voici une partie des questions que nous allons aborder ici même jusqu'à 17h. Approchez les enfants du poste, car comme vous l'avez parfaitement bien compris, aujourd'hui...
Je te tiens.
C'est vraiment bon quand on vieillit de découvrir qu'il y a des gens qui sont plus vieux que nous. Ça fait toujours vraiment du bien. Merci Bruno. Camille au Mont-Carnel. 8 écoles attaquées en Belgique parce qu'elles dispensaient des cours d'éducation sexuelle qui ont choqué des parents d'élèves ultra-religieux. Vous avez, j'imagine, vu ça dans l'actu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est désolant. Tout le monde n'est pas prêt pour votre compte Insta, visiblement.
Ah bah alors là, je pense que c'est déjà les cours d'éducation sexuelle, on crame. Je préfère mon compte Insta, je préfère même pas leur montrer parce que là, je pense qu'on est sur des ruptures d'anévrisme imminentes. Non, moi, je pense que ça en dit long sur à quel point la société est en retard et à quel point on n'est vraiment pas prêt et qu'on ne veut pas. Et qu'en plus de ça, face à ce genre d'initiative, ça se traduit souvent par de la violence. Et moi, c'est ça aussi que je trouve assez hallucinant. C'est le fait qu'on ne peut pas se poser 5 minutes pour se dire mais du coup, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous qui fait que ça vous paraît à ce point-là et on tombe forcément dans la violence alors qu'in fine, c'est juste des personnes qui essaient d'avoir des initiatives pour que le message passe, pour continuer à élever parce qu'en fait, il y a un manque cruel et qu'en fait, on ne devrait pas pouvoir s'en passer. Quoi.
Quentin ? Qui vous a parlé de sexe, vous, pour la première fois ?
Mes parents.
Ouais.
Moi, j'avais des moments très... Ouais, je me souviens d'anecdotes et d'après-midi très gênantes où on regardait des cassettes d'éducation sexuelle, mais en famille. Donc, moi et mes deux parents.
Mais ils étaient quand même hyper ouverts d'esprit.
Oui, c'est une chance. Après, moi, j'ai grandi avec deux parents inspecteurs, inspectrices d'éducation nationale. Donc, pour le coup, tout ce qui est éducation...
Ah, ils respectaient le programme.
Il y avait quand même un engagement et une volonté de faire passer les messages. Mais ça restait toujours avec des matériaux et vraiment des projets qui étaient toujours très très gênants, qui étaient surtout en fait pas adaptés aux ados. C'est ça vraiment ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on passe de contenu fait pour les parents, par les parents, presque à un besoin aujourd'hui, on le voit avec Sex Education, de reconnaître, de rentrer dans les codes des ados.
Justement, l'année dernière, vous avez fait paraître chez Albin Michel un guide d'éducation sexuelle à destination des plus de 14 ans. Quel regard vous portez, vous, l'experte, sur la manière dont on enseigne la sexualité aux jeunes aujourd'hui ? Encore, on est complètement en retard encore.
Bah, on l'enseigne pas.
Enfin, je veux dire, moi, j'ai écrit ce livre-là, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs durant tout le processus. J'ai dit, je devrais pas être en train d'écrire ce livre-là. Mon compte Instagram devrait pas être en train de cartonner. Ça devrait pas être perçu aujourd'hui comme une nécessité. Mmh. Et moi, on ne devrait pas me considérer comme une experte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon compte et d'autres, hein, on est venus sans s'en rendre compte, venir combler un manque cruel d'informations, à un besoin en plus de ça de consommer de l'information de façon plutôt anonyme parce que ça reste tabou et qu'en fait, il y a un truc où personne assume. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai pas écrit parce que j'avais envie de l'écrire. Je l'ai écrit parce que j'avais des centaines d'ados qui me suppliaient depuis 4 ans de « s'il te plaît, toi qui connais nos codes, qui es proche de nous, fais quelque chose ».
Elle ne fait pas partie de ma playlist Cozy Sex, non. Elle, on la trouve sur ma playlist Rough Sex, quand l'animal en moi se réveille. Voici Lizzo, Cause I Love You, sur un...
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. Do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Avant d'aller vous jeter, oui, on rit hors antenne forcément, on écoute ma playlist. Alors avant d'aller vous jeter sur la saison 4 de Sex Education, restez avec nous les amis, on zoome justement aujourd'hui sur l'éducation sexuelle. Comment parler de ça à nos ados? Déjà en achetant mon bouquin, nous dirait Camille Moncarnel, notre invitée qui ne perd pas le nord. Alors déjà Camille, à partir de quel âge estimez-vous qu'on peut, qu'on doit peut-être parler sexualité à nos enfants?
À partir de 3 ans.
Ah oui, je pense que parmi nos auditeurs, certains...
Ouais, je sais, ça va les choquer. Mais je pense que ça dépend ce qu'on rentre dans sexualité. Ouais. Moi, j'ai tendance à agrandir un petit peu la notion et dire, bah, en fait, il faut leur parler d'interaction avec l'autre, de lien avec l'autre, de son corps, de juste, en fait, comment est-ce qu'on vit en étant des êtres sociaux. Et ensuite, petit à petit, on peut rentrer dans la sexualité. Mais pour moi, la sexualité, c'est une sous-catégorie de tout ça. Et on peut commencer dès 3 ans à parler de... tes parties intimes, qui est-ce qui a le droit de les toucher, quand ton corps t'appartient, respecter ce que l'autre veut. Non, on peut pas faire des smacks comme ça parce que juste on en a envie et qu'on trouve que le petit garçon, la petite fille est sain. Voilà, donc il y a tout un tas de thématiques qui peuvent arriver, qui rentrent déjà dans une forme d'éducation sexuelle. Et c'est pas parce qu'il y a le mot sexuel que tout de suite on va leur parler de pornographie. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de pornographie à des ados ou à des jeunes qu'ils vont forcément regarder. C'est pas parce qu'on leur parle de contraception ou de sexe anal qu'ils vont forcément le pratiquer. Et ça aussi, c'est une espèce de croyance qu'on a.
Qu'on va instiller en eux des idées.
Mais oui, alors qu'en fait, pas du tout. On les informe et on leur laisse surtout ce qu'on appelle la liberté du choix, quoi.
Mais justement, c'est quoi la recette d'un bon cours d'éducation sexuelle? Déjà, qui doit venir le faire dans une classe?
Ok, très simple comme question. Premier point, un bon cours d'éducation sexuelle est vraiment dispensé et incarné par une personne qui n'est pas gênée par le sujet. Avant même, alors moi je rentre même pas encore dans la thématique de est-ce que t'as la base des notions. Moi je sais déjà, est-ce qu'en fait, parce que les ados ils le sentent et moi vraiment ils me le disent.
Ils le sentent avec les profs notamment de SVT qui font le truc à reculons.
Moi, c'est des ados qui me disent au téléphone, mais en fait ils puent la gênance quoi. Leur mot, encore une fois, ils puent la gênance. Donc déjà une personne qui n'émane pas une forme de gêne et de je vous en parle parce que je sais qu'il faut que je vous en parle, mais en fait je suis pas hyper bien et je commence à bégayer. Donc déjà on va commencer par là. Ça élimine déjà beaucoup de personnes.
Hein. Beaucoup.
Et ensuite arrive vraiment une posture qui est très importante et face notamment à des ados, faut pas se positionner en tant que sachant ou en tant que sachante. Ça c'est quelque chose aussi qui en général les horripile et c'est toutes ces personnes qui arrivent en disant alors moi je vais vous expliquer papier crayon, c'est comme si que ça se passe. L'idée c'est vraiment de créer des discussions et de faire en sorte de répondre aux questions qui se posent et qu'elles se posent et qu'elles se posent. Donc vraiment arriver en disant écoutez vous savez quoi, on va passer un moment ensemble. Moi vraiment quand j'ai pas la réponse, j'aurai pas la réponse, mais l'idée c'est vraiment qu'on arrive à échanger et que tout simplement vous posiez les questions parce que on sait tous et toutes qu'ils ont tous et toutes au moins 5 questions qu'ils ne posent jamais à personne.
C'est pas un cours magistral, c'est des questions-réponses.
Ouais, c'est un moment à la cool et où on échange et on discute et c'est presque de l'éducation civique, quoi.
Un mot du porno, on peut pas ne pas en parler. Dans une étude récente de l'ARCOM, 2 300 000 mineurs fréquentent régulièrement des sites pornographiques et ce, dès l'âge de 12 ans. Comment on gère ça? Parce qu'évidemment, ils vont y aller sur les sites porno un jour ou l'autre. On va certainement pas leur dire n'y allez pas, mais comment on essaie de les préparer à ça, ce qu'ils vont voir, essayer de déconstruire un peu?
Ce qui est très compliqué, c'est que là, l'âge que vous avez cité, c'est 12 ans. Moi, j'ai aussi d'autres sources qui citent un âge beaucoup plus jeune, presque 9 ans, 10 ans parfois. Donc, ce qui est très compliqué à cet âge-là, et pour beaucoup de parents, et ça, je le conçois, c'est vraiment d'accepter que notre enfant est un être sexué. Et ça, je sais que ça fait bugger tout un tas de parents qui, du coup, derrière, disent « Mais en fait, je vais pas leur en parler, c'est trop tôt, parce qu'en fait, ils sont pas en âge de... » En fait, le sujet, c'est pas celui-ci. Le sujet, c'est qu'ils vont aller voir du porno. Donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place? Il faut en parler. Il faut leur dire qu'en fait, c'est pas la vraie vie. Et moi, je suis persuadée qu'en fait, un ado qui a les espaces et qui a les ressources et en fait les personnes nécessaires à qui il peut poser les questions, n'a pas envie d'aller regarder du porno. Parce que moi, in fine, quand je parle avec les ados, et j'ai échangé avec 1200 ados au téléphone, ils me disent, moi je regarde du porno parce qu'en fait, c'est le seul espace et les seules sources les plus complètes, donc auditives, visuelles, où potentiellement je peux avoir un truc qui se rapproche de ce que je suis censée faire. C'est vraiment, si j'avais quelqu'un qui répondait à mes questions, et qui était hyper à l'aise, et qui était présent, et qui était présente, j'aurais pas envie de regarder du porno. Donc faut pas, enfin les ados sont pas cons quoi. Il y a vachement ce truc de, oui les ados regardent du porno parce qu'en fait ils veulent apprendre. Moi, c'est seulement la troisième raison, quand je pose la question aux ados, c'est seulement la troisième raison que je veux apprendre. Avant ça, il y a... je sais pas, parce que j'ai rien d'autre, en fait. Donc, les ados sont conscients que ce qu'ils regardent, c'est pas ce qu'ils sont censés faire dans la vraie vie. Mais d'un autre côté, ils me disent, mais en attendant, personne me montre ce que je suis censé faire dans la vraie vie.
Et qu'est-ce qu'on est censé faire dans la vraie vie?
On est censé appliquer du consentement, déjà, dans un premier temps. On est censé pas se foutre la pression. La sexualité, c'est vraiment pas un espace de compétition. Tout ce qui rentre dans le champ lexical de la performance, de la combativité, de la réussite, d'un truc où on devrait courir après le temps, tout ça, ça n'existe pas. L'idée, c'est vraiment de se dire, venez, on revient à quelque chose qui est joyeux, qui est consenti, qui rime avec plaisir, avant tout. Et c'est surtout un moment de partage. C'est un moment où on est censé se faire du bien. C'est l'orgasme, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais avant ça, enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous et toutes eu des rapports de ouf, on n'a pas forcément eu d'orgasme, et des rapports où on a eu un orgasme en 3 secondes, on est là en mode ouais, c'est tout, ok, d'accord. Cool. Donc, in fine, faut revenir aussi à la base de. En fait, on est là pour passer un moment cool ensemble et échange de fluide, et la vie est belle, quoi.
L'éducation sexuelle, le discours sur la sexualité, est-ce que ça doit être réservé aux seuls ados? On fait l'émission là-dessus sur comment parler de sexe avec nos ados. Ou est-ce que ça concerne finalement toutes les classes d'âge? Il y a plein de classes d'âge qui n'ont pas eu de cours d'éducation sexuelle quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'il y a besoin de rééducation sexuelle aussi?
Oui, bien sûr. Après, moi, je ne crois pas en l'éducation qui a une date de péremption. Donc, qu'elle soit sexuelle ou pas sexuelle, l'éducation, ça reste le fait d'apprendre. Et ça, pour le coup, ça... Il n'y a pas d'âge, on apprend à tout âge. Enfin, c'est hyper bateau ce que je suis en train de raconter, mais pour le coup, c'est vrai. Et je pense qu'il ne faut pas ramener ça à quelque chose vraiment de OK, ça se joue entre 12 ans et 18 ans, et après ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que avant d'avoir des ados qui n'ont pas d'éducation sexuelle, il y a surtout des parents qui n'en ont pas eu et qui, du coup, sont dans l'incapacité.
D'en donner, oui, bien sûr.
Oui, oui. Donc il y a un espèce de cercle vicieux de. des parents qui sont pas à l'aise avec le sujet, qui du coup ne sont pas capables, et donc ça donne des ados à qui on n'en a pas parlé, qui eux-mêmes vont être des parents. Donc il y a une espèce de, il y a une espèce de matrice qu'il faut vraiment arriver à rompre. C'est passé notamment par les réseaux sociaux, c'est passé par tout un tas de bouquins, c'est passé par tout un tas de séries. Et Sex Education, c'est la preuve parfaite, parce que vraiment jusque-là, il y avait ce truc de soit c'est éducatif et auquel cas il y a pas forcément les codes, soit il y a les codes, c'est hyper branché, mais auquel cas on apprend rien.
Là, il y a les deux.
Et Sex Education, là-dessus, ils sont trop forts, quoi.
Lui, il a été parfaitement guidé dans sa découverte de la sexualité, puisque c'est ma mère qui s'en est occupée. Enfin, murmure dans les couloirs. Quentin, vous vous rendez compte de ce que vous me faites dire? Bon, ça suffit. Une fois de plus, vous êtes allé interroger les passants sur notre thème du jour. Alors, ils en pensent quoi, les Français, de l'éducation sexuelle?
Fin de matinée, Fanny attache son vélo contre la grille d'un square et trimballe sur le porte-bagages un gros sac. Je l'interpelle, un peu surprise. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac?
Il y a un tapis de yoga. Voilà, je vais donner un cours.
Ah, vous faites quoi dans la vie?
Je suis prof de yoga.
Je lui tends notre pancarte avec le titre d'une série de notre époque.
Oui, je connais, Sex Education, ouais. Je me hâte de le retrouver dès demain, parce que j'adore. J'ai vu des affiches et les affiches sont mortelles.
Les affiches dans le métro, sur les bus, et cette série qui impose un sujet parfois délicat.
C'est vrai qu'il faudrait que ce soit un sujet, mais pas un sujet dont on parle à l'adolescence dans un livre de biologie, avec des sexes qui ressemblent à rien.
Alors comment?
C'est-à-dire qu'il faudrait en parler tout petit. Tout petit. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait écouter les psys et arrêter d'écouter les politiques. Il faudrait en parler à 3 ans et demi, 4 ans, au moment où la sexualité vient à l'esprit des mômes. Donc ça, on n'y est pas encore.
Gérard et Sylvie, 72 et 63 ans, marchent dans la ville. Lui, il a sa veste type bleu de travail, sa casquette de Gavroche grise. L'œil amusé, Gérard découvre...
Sex education.
Il n'a pas d'éducation.
Ah, parce qu'il faut dire chienne.
Bon, parce qu'il n'y a pas de.
Mais il est là, le. Riche, de éducation.
Ouais.
Ils l'ont collé.
Allez, Gérard, à l'anglaise alors.
Sex education.
Yes. Je leur raconte cette série qui parle de sexe, qui parle aux jeunes. Est-ce que vous parliez de sexe dans votre jeunesse?
C'est-à-dire que quand on parlait de sexe, en général, c'était court. Mais moi, je viens d'une génération où, par contre, on était plus permissif. C'est les années 70, les beatniks, les hippies et tout ça. Ouais, on a fumé des pétards, ouais, beaucoup, on a pris des acides. Et on avait des relations, les amitiés amoureuses passaient facilement par le sexe. Vous voyez, c'était... Maintenant, ça commence à se rigidifier, il y a tout un... Non, on n'avait pas eu de cours, on a appris sur le tas, c'est beaucoup mieux. C'est pas pour dire que c'était mieux avant. Hein.
Je dis pas ça, mais il y a des notions pas... de consentement et de diversité dans le sexe qui n'était peut-être pas abordée dans les années 70.
Ça, c'est vrai. Il n'y avait pas la même conscience.
Moussa, lui, est en seconde. Il est entouré de ses potes à la sortie du lycée, son jogging vert. Tous réagissent à la pancarte Sex Education.
Ouais. Oh, je l'ai guetté 5 fois, cette série, je vous jure. Otis Milburn, l'auteur principal, il y a Maeve. Il y a Eric, même, il est gay.
Genre, j'ai pas vu.
Ouais, tu vois c'est quoi Sex Education?
Non,
voilà.
Tu vois c'est quoi
de nom?
Eh oui, de nom. Avec tout son enthousiasme, je lui demande s'il a appris des choses en regardant la série.
Ouais, sur le truc des vagins, tout ça, les trucs comme ça, là. Ouais, il y a un tas de trucs. Je vous jure. Genre, ils apprennent un tas de trucs, les érections. Genre, quand on fume beaucoup. Genre, Adam, la mère d'Otis, au début, elle avait dit que. Genre, t'as une impuissance parce que tu fumes trop. Des trucs comme ça. Ça m'a appris plein de trucs et tout. Ça fait maintenant que je suis calé dans le domaine, tout ça.
Ouais, Moussa, il est calé dans le domaine, tout ça. Génial. Est-ce qu'il a eu dans sa scolarité des cours d'éducation sexuelle?
Ouais, ça a commencé en CM2. Je nous parlais de choses comme ça, mais on était petits, vous voyez, ça fait rentrer pas trop dans les détails.
Ok, donc ça c'était en CM2. Et après, quand est-ce que t'en as reparlé?
En quatrième. Ils nous montraient en mode quand vous éjaculez, en mode... Enfin, je m'en souviens plus très bien.
Ouais, visiblement, on retient mieux les épisodes de la série que les cours du collège. Dernière rencontre, une jeune femme qui traverse la place et qui me reconnaît. Oui, on m'a reconnu.
Quelle star!
Quentin!
M'a reconnu dans la rue. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 21 ans et je suis la copine de l'ancien stagiaire de Zoom Zoom Zen, Raphaël Canzon.
Je vous disais aussi, ça cache
un truc. Ah, ce bon vieux Raph. Louane aussi est dans le journalisme, elle connaît notre émission, elle me demande le thème du jour.
Ok, Sex Education. Ok, ouais, pour la nouvelle saison. Moi, je trouve ça... Enfin, j'aime beaucoup cette série. En plus, c'est vraiment un peu ma génération Z, un peu ce délire-là, avec vraiment l'ouverture à d'autres sexualités aussi. C'est vraiment... Je pense que ça a réussi à prendre le côté jeune sans en faire quelque chose de trop cringe ou trop gênant. On voit que dans l'écriture, il y a de l'attention aussi qui est portée vraiment à ce que les jeunes pensent aujourd'hui, à ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils voudraient pratiquer peut-être.
Une nouvelle façon d'aborder la chose. Voilà la recette. Le côté drôle et non gênant qui s'additionne. Longue vie à Sex Education.
vous direz, Louane, qu'on ne dit pas cringe, mais cringe. Hein. C'est comme ça que je le prononce, oh, moi, dans cette certain, émission. Merci beaucoup.
Non,
on continue à parler éducation sexuelle dans Zoom Zoom Zen avec notre invitée du jour, Camille Aumont-Carnet. Je rappelle votre livre, Les mots du cul, qui sort le 5 octobre. On vient d'entendre ses réactions au micro de Quentin. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'uniformité sur l'éducation sexuelle à l'école. C'est-à-dire, là, il y a quelqu'un qui nous dit, ah, mais oui, en CM2, j'ai eu un cours là-dessus. Ouais. D'autres qui n'ont jamais eu de cours d'éducation sexuelle. Mmh. On a l'impression que c'est un peu à la bonne volonté du prof.
C'est à la bonne volonté des profs. Et puis c'est tout simplement à la bonne capacité aussi des profs.
Oui, bien sûr. On ne jette pas.
Bien sûr.
C'est difficile.
Mais c'est difficile et c'est vrai que pour le coup, tant qu'on ne rentrera pas dans quelque chose vraiment de législatif, vraiment ça fait partie du programme. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de l'extraire et de ne pas le laisser dans. On verra bien si jamais il y a du temps dans l'année. Vous irez peut-être une demi-après-midi à l'infirmerie pour mettre des capotes sur des bananes et finir par faire des ballons dans la cour. Mmh. C'est pour ça que c'est important d'agrandir un petit peu les notions d'SVT qui, à date, dans tous ces âges-là qu'ils ont cités, c'est vraiment la sexualité dans le cadre de la reproduction. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a du mal à parler de plaisir. On devrait quand même parler de consentement, hein, parce que même pour faire des gosses, on devrait quand même être consentant et consentante, aux dernières nouvelles. Mais c'est important d'agrandir un petit peu et de se dire... Voilà, c'est l'espace où on va parler, pas forcément d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue sociologique et politique, parce que la sexualité, j'ai d'abord l'impression que c'est ça, et ne pas le laisser comme étant un sujet dont on abordera si on jamais on a le temps, quoi.
À mon époque, le bouquin que toutes les filles avaient, c'était le Dico des filles. Je suppose que vous aussi. Et dernièrement, des extraits sont ressortis. Et c'est choquant ce qu'on peut y lire, notamment sur l'avortement, que l'autrice condamne. En fait, ce Dico culpabilise les jeunes filles. Il est sexiste, voilà, clairement. Comment on s'en est pas rendu compte à l'époque ?
Parce que c'est systémique, on était tous et toutes dans une espèce de dictature aux injonctions. On avait toujours peut-être une ou deux potes qui potentiellement réagissaient un petit peu, mais il a fallu... Là, ce qui est beau avec ce qu'on est en train de vivre depuis les 5 dernières années, c'est que c'est ça qu'on appelle la révolution. La révolution, c'est avant tout un mouvement qui rase et qui vraiment embarque un maximum de personnes. Là où nous, à notre époque, on était un petit peu... Moi, c'est ce que j'appelle vraiment la génération cul entre deux chaises. Il y a eu mai 68, il y a eu MeToo, oui. Et entre-temps, il y a un espèce de truc un peu vide, et c'est ça l'image d'une vague.
Mais ça veut quand même dire aussi que nos parents n'ont pas lu ce livre qu'ils nous ont acheté.
Après, alors...
Et oui, c'est la génération.
Ouais, ça veut aussi dire ça, et ça veut aussi dire quelque chose, je pense, d'encore plus subtil, c'est ne pas oublier tous les parents qui préfèrent qu'on lise ça, plutôt qu'on lise des vrais bouquins comme moi j'ai pu écrire avec Adosexo, où du coup, on rentre vraiment dans le sujet. Il y a aussi tout un tas de parents qui lisent et qui disent « Moi, je suis OK, si c'est ça l'éducation sexuelle, je veux bien que tu aies ces infos-là. »
Et en face, chez les garçons, on avait aussi le guide du vie sexuelle de Zep, avec Titeuf qui partait à l'exploration. Moi, j'ai plutôt un bon souvenir en CM2.
Trou, là.
Oui, avec le trou, on mettait le doigt dans... Voilà, exactement. Est-ce qu'il a été utile à l'époque ? Est-ce qu'il a été utile, ce livre, à l'époque ?
Ouais, il a été plus utile que le Dico Défi, pour le coup, avec vraiment une perspective. Là, ils ont ressorti une version, je pense, il n'y a pas longtemps, qui est beaucoup plus inclusive. Mais moi, je me souviens que vraiment, le guide du zizi sexuel, même s'il s'appelait le guide du zizi sexuel, j'avais plein de copines qui se genraient au féminin, qui pourtant le lisaient et trouvaient que c'était hyper intéressant. Oui, en fait, je me dis, il y a un côté, en fait, c'est déjà ça. Il y avait tellement rien qu'à un moment donné, le guide du zizi sexuel, bon, bah, au moins, ça aborde quelques sujets. Et moi, dans mes souvenirs, et quand j'en ai parlé à des copines, elles me disaient, moi, à l'époque, j'avais l'impression que ça répondait quand même à des questions.
Alors vous, je ne sais pas ce que vous allez faire pendant notre deuxième pause musicale, mais moi, je vais bouquiner. Et Manon et Quentin, vous serez bien inspirés de faire pareil, parce qu'aujourd'hui, le Zoom Zoom Test va porter intégralement sur les mots du cul, le livre de Camille Aumont-Carnel, notre invitée. Alors à tout de suite, juste après Alyosha Schneider, avant elle, sur Inter.
Rien à espérer de moi. Passe ton chemin, t'arrête pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. J'ai jamais eu peur de personne. Je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Au monde, quand ceux qu'on aime nous aiment plus. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde, quand ceux qu'on aime nous aiment plus?
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Sex Education saison 4 est disponible aujourd'hui, l'occasion ou jamais de zoomer sur l'éducation sexuelle avec notre invitée Camille Aumont-Carnel, autrice de ce qui est désormais mon nouveau livre de chevet, Les mots du cul, aux éditions Le Robert. Et justement, il y a des jours où le quiz se remporte par hasard et d'autres où il se gagne au mérite. Qui de Manon ou Quentin a eu l'idée de lire le livre de notre invitée? Jouons au Zoom Zoom Test. Alors, dans son nouveau livre, vous l'avez compris, Camille nous raconte les nouveaux mots du sexe. Et au fil des pages, j'ai découvert avec un certain vertige que ces mots avait beaucoup changé depuis l'époque où Cyril Lacarrière, où le truc le plus fou qu'on pouvait hurler pendant les ébats était « Je t'aime oh ». C'était une autre époque. Il nous écoute et j'espère qu'il prend des notes. Attention, top. Nous sommes chez la Marianoche, un vendredi soir classique. Après avoir descendu 3 bouteilles de Chablis, CV cuisine des œufs au plat à même le ventre de Manon.
Oh, mais ça va pas.
C'est la base. Tout à l'heure, ils feront l'amour et les voisins taperont contre le mur en hurlant des « moins forts les jeunes !» car ils ne savent pas que Manon a bientôt 32 ans.
Mais ça va, c'est ma journée.
Pendant leurs ébats, ils crieront peut-être des petits mots cochons sans se rendre compte que ces mots charrient parfois des relents de paternalisme assez déplacés. Ainsi, d'après vous, quel petit nom désignant la vulve pose problème selon notre invité? Le nénuphar, la pâquerette ou la mouflette?
B.
La mouflette, c'est bizarre.
La mouflette, pâquerette.
Je ne vous demande pas de commenter le quiz, je vous demande de répondre.
Ah, parce que c'est un mot masculin. Ouais, allons-y. Ah, nénuphar.
Une mauvaise réponse. La pâquerette. La pâquerette. Et oui, Manon, CV n'y pense pas quand il évoque votre pâquerette. Mais c'est pas terrible comme comparaison, car c'est une infantilisation du corps féminin. La pâquerette, c'est la fleur qu'on cueillait pour en faire des colliers à nos mamans quand on était petits. C'est mignon, mais convoquer l'univers de l'enfance en plein coït, c'est moyen. D'ailleurs, à l'étranger, on évite pour le sexe féminin des parallèles floraux. Attention, je vous donne des petits noms, vous me dites si c'est vraiment comme ça qu'on dit. En Angleterre, on parle volontiers de buisson.
Oui,
faux.
Oui,
faux.
Oui, oui.
Faux.
Vous n'avez pas beaucoup été en Angleterre.
Non, j'ai pas eu de compagne.
Il est en Irlande.
Le buisson en Irlande. Et là, c'est avec sa compagne. Il n'a pas eu le temps de découvrir la langue. Au Danemark, on aime se réchauffer dans le petit sauna.
Oui.
Vrai.
Bien sûr que non,
ah,
les Danois sont
des gens super, c'est
civilisés.
C'est
oui, vous l'avez inventé.
C'est de vous.
Ouais, copyright.
Déposez-le.
En Espagne, on aime beaucoup les fruits. Et quand on a une faim particulière, on aime se pencher sur la petite fraise.
Vrai. Oui.
Vrai. Oh si, bah, oui. La fraisita. Plusieurs fois, en week-end à Barcelone, ça a d'ailleurs été source de quiproquo pour Manon, qui était obligée de dire au mec « Mais pourquoi tu veux une fraisita, Manolo? C'est pas la saison. Non est la saisonita. » Bref, grand fou, elle loco. La fraisita. Sachez qu'en Espagne, on parle aussi de piña, ananas, de pistachio, pistache, et même, peut-être quand la fraîcheur n'est pas au rendez-vous, de champignon. Le mot que vous n'avez jamais entendu, Manon, évidemment.
Bien sûr. Rassure.
Alors, là où j'ai été moins rassuré, c'est quand, en découvrant l'existence de certaines pratiques que jamais, au grand jamais, on aurait pu imaginer chez les Noëls, où je vous rappelle, l'amour, c'est toujours une fois par an et...
En missionnaire.
Évidemment.
Et volet fermé.
Et volet fermé.
C'est détail important.
J'étais donc très choqué, Camille, de découvrir dans votre livre « Les mots du cul » l'existence d'une pratique nommée le « humping » avec un H, qui consiste, je cite, à frotter son appareil génital à une partie du corps, de son ou de sa partenaire, ou, et c'est là que ça bascule, à un quelconque objet parmi lesquels...
Oula.
Un coin de table, une cuvette de toilette, une paire de chaussettes.
B.
C.
La cuvette.
Je vous donne l'opportunité.
C'est les trois.
Les trois, Quentin, lui, et oui. Et oui, ça, c'est mon côté vieux jeu, m'incite à dire hélas, les trois. Oui, voilà le monde dans lequel on vit. Tout existe, pauvre France, mais aussi pauvre Angleterre. Nous sommes à Londres en 2012 et cette année-là, les pompiers de la ville enregistrent un record assez insolite. Un record d'intervention pour désincarcération de personnes bloquées l'une dans l'autre, mains bloquées à l'intérieur d'une personne, ou pénis coincé dans des aspirateurs.
C'est...
Ah, c'est chaud. Non, c'est les gens l'un dans l'autre.
Non, là, je sens l'aspirateur.
Quelle imagination. Vous sentez l'aspirateur.
C'est la bonne réponse, quoi.
Mais qu'est-ce que tu fais, John? Mais enfin, je prends le Dyson pour ajouter du fun. Bienvenue dans le Londres post 50 nuances degrés. Le roman érotico-SM vient de sortir et c'est la folie. Cette année-là, un homme fut même arrêté au Royaume-Uni pour avoir essayé de faire l'amour à une boîte aux lettres. Enfin, attention, hier, Quentin encaissait l'humiliante nouvelle. Même un canard était mieux doté que lui. Depuis, il n'arrête pas de mesurer et de remesurer. « Sors de cette salle de bain !» lui crie sa compagne. Rien n'y fait, c'est toujours le canard qui gagne.
Oh non.
Eh bien, mon pauvre Quentin, cette ultime information ne va peut-être pas arranger vos affaires. D'après vous, le clitoris, cet organe que vous avez découvert le mois dernier par hasard, quand il est en érection...
C'est comme toute votre génération, quoi. Pas de problème.
On n'est pas de la même génération.
Ah, vous le connaissez pas encore.
Non, je le découvrirai un jour. Quand il est en érection, et ça vous venez de l'apprendre qu'il peut l'être, quand il est en érection donc, le clitoris est-il en moyenne plus grand, moins grand ou aussi grand que votre petit oiseau?
Bah attention, mais ça dépend de quand on parle.
Aussi grand, du moins aussi grand.
Mais non, pas aussi
Après,
grand.
Ça dépend de la taille de la personne, non?
Mais non,
Quentin,
pas Quentin, c'est un quiz bon enfant, vous pensez pas comme ça, c'est
la bûche.
Oh mon dieu, c'est extrêmement gênant. Oh mon dieu.
Normalement, ça reste dans l'open space, ça va partir sur Twitter.
C'est une erreur. La réponse est évidemment plus grand. Le clitoris est plus grand. En effet, un clitoris en érection fait en moyenne 11 cm, soit 2 cm seulement de moins qu'un pénis moyen en érection, mais 2 cm de plus que. Bref, c'est une info que votre compagne m'avait donnée. Victoire de Manon Mariani, mais oui, c'est quand même une info absolument incroyable. Il y a donc dans ce livre, Les mots du cul, qui sort le 5 octobre, plein d'informations comme ça. Mais Camille Aumont-Carnel, dans votre livre précédent, Ado Sexo, vous avez publié, point de vue beaucoup plus sérieux, une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, qui était alors Pape Ndiaye. Cette lettre était assez dure. Qu'est-ce que vous reprochiez précisément au ministre à l'époque?
De faire l'autruche. Aujourd'hui, on a des chiffres, donc on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Et puis, de ne pas remettre l'éducation sexuelle dans un contexte de... En fait, on prend en charge des futurs citoyens et citoyennes de la nation. Donc, à un moment donné, l'éducation sexuelle et l'éducation tout court ne devrait pas s'arrêter juste au scolaire, à l'histoire, à la géo, aux maths. Ça va au-delà, mais parce qu'en fait, il y a des véritables enjeux de socialisation, il y a des véritables enjeux légaux, il y a des véritables enjeux politiques derrière. Donc, en fait, on ne peut pas juste mettre ça de côté, tout simplement, parce qu'en fait, on est face à un parterre de personnes qui ne sont pas à l'aise.
Mais ce qui est fou de ne pas faire le lien quand on s'occupe de l'éducation nationale, c'est que, par exemple, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites aux femmes, c'est quand même le fait des garçons. Il faudrait
97% des violences sexuelles sont exemptées. Oui,
et donc il faut prendre le problème à bras le corps. C'est vrai que ça paraît fou qu'il ne le fasse pas. Est-ce que vous allez contacter Gabriel Attal? Est-ce que vous pensez avoir plus de succès?
Je pourrais envoyer une lettre, mais après, s'ils continuent tous à bégayer, c'est sûr qu'on ne va pas vraiment s'en sortir. Mais avec plaisir pour avoir une conversation. Oui.
Est-ce que vous avez été sollicité après Ado Sexo pour intervenir vous-même dans les écoles?
Oui, j'ai été sollicitée d'ailleurs par le ministère de la Santé. Donc on a fait à l'occasion des journées de la santé sexuelle un tour en France dans plusieurs départements où on allait justement pas forcément dans les classes parce que je trouve que ça reste un espace un petit peu compliqué dans le sens où faut faire signer des décharges, il faut que les parents soient d'accord. Alors que tout simplement le fait de les faire sortir du cadre scolaire qui du coup les fait aussi sortir d'une forme d'autorité et de rapport de force et de rapport qui est inégal avec leurs profs fait qu'on se retrouve dans un espace où ils sont entre eux avec des personnes qui sont pas forcément leurs profs et on allait donc à chaque fois louer l'espace le plus grand de chaque ville, donc c'était des 600-700 places, et en fait on remplissait d'ados, de collégiens et lycéens de la région.
Ça montre la demande qu'il y a.
Et c'était des journées canons, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça soit des journées hyper gênantes, et pas du tout, et en fait ils attendent que ça. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, ils attendent que ça, et surtout de pouvoir échanger entre eux, dans un cadre avec des personnes qui sont là pour répondre à leurs questions, qui sont là pour les orienter et les guider.
Et justement, vous les avez trouvés comment? C'est quoi leur demande? Qu'est-ce qu'ils disent, les ados, aujourd'hui?
Franchement, c'est tout. En fait, y a tellement rien que c'est tout. Ça part du consentement, en passant par toutes les notions aussi, tout simplement de charge mentale, de charge aussi tout ce qui est lié aux drogues, avec la performance, mais en passant aussi par beaucoup. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très touchant. Et j'entends que ça rentre complètement dans un prisme de privilège, mais de plus en plus de questions liées à l'écologie, donc notamment sur le sujet des règles, avec les protections. Comment est-ce qu'en fait on peut arriver à, tout en étant à l'aise, faire notre transition de protection jetable vers protection durable, et puis tout simplement une forme aussi de savoir-vivre et des questions qui s'éloignent de plus en plus de la sexualité, beaucoup autour de la drague, de la séduction, avec tous les nouveaux codes qu'on a, et je pense qu'on n'arrive pas encore à cerner, à vraiment étudier, donc les flammes sur Snapchat, le double-check sur WhatsApp parce que la personne a vu, le fait qu'une personne ait vu un message et soit en ligne toutes les heures et qu'en fait elle mette 4 jours à répondre à nos messages. Il y a aussi tout un tas de questionnements qui rentrent même avant les notions sexuelles, qui sont juste les notions d'interaction avec les autres, et c'est ça que je trouvais hyper passionnant.
Est-ce que vous parlez de masturbation ? J'ai un souvenir, moi, au collège, où les garçons parlaient beaucoup de masturbation et les filles n'en parlaient pas du tout. C'était tabou. Est-ce que ça a évolué de ce côté-là chez nos
ados ? Oui, ça a évolué. Moi, je fais partie d'une génération. Je pense pas qu'on ait beaucoup d'âge de différence, mais moi, je fais partie d'une génération où, justement, les stats, c'était les filles se masturbaient moins que les garçons. Et en fait, là, maintenant, ça fait 5 ans qu'on se tue à dire non, juste on ment.
c'est clair.
Juste on mytho, en fait, parce qu'on n'assume pas. Et c'est vrai qu'arrive maintenant beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de libération de la parole autour de ce sujet-là, avec vraiment des messages qu'on martèle de en fait, c'est pas sale, c'est pas honteux, c'est pas un truc de dalleux, c'est pas un truc de dalleuse, pour reprendre encore une fois les mots, mais parce qu'ils sont très porteurs aussi de sens et de à quel point on peut parfois se sentir vachement bridé parce qu'en fait on a ce que le mot et ce que l'expression vient connoter. Mais donc aujourd'hui, oui, on a beaucoup de jeunes filles qui se libèrent vis-à-vis de ça et qui l'assument et qui disent bah ouais, je me masturbe, et alors toi aussi, du coup, c'est quoi le sujet ?
On évoquait bon, les ados beaucoup dans notre émission, mais ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, la Gen Z, c'est dur pour eux.
C'est très dur.
Pourquoi pour eux particulièrement ?
Bah parce que c'est vraiment une génération qui... c'est pas encore moi, donc en fait moi je suis en plein dans ce truc de post-MeToo, j'ai 26 ans, c'est pas non plus des ados, c'est un peu la génération entre deux, et puis ce qui est hyper intéressant à observer c'est que il y a 10 ans il me semble qu'une génération c'était 20 ans, que là maintenant il y a 5 ans c'était 10 ans, et en fait les générations aujourd'hui, elles sont vraiment vraiment rétrécies, donc en fait on arrive à calibrer les échanges et même la compréhension de comment ces personnes-là fonctionnent, ça se joue en l'espace de 5 ans, et ces personnes-là pour le coup c'est vraiment entre deux quoi, c'est on a connu Facebook mais on a aussi connu Instagram, mais en fait on est complètement à la masse de TikTok, mais Instagram on se reconnaît plus non plus trop dedans, donc ouais, force.
C'est la génération qu'il faut suivre de près.
C'est la génération qu'il faut suivre de près, et moi d'ailleurs c'est la génération qui me suit le plus.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, c'est aujourd'hui son anniversaire, alors autant vous dire qu'on va mettre les petits plats dans les grands et qu'il va y avoir du joyeux anniversaire à la glotte. Le génie de l'imitation buccale suisse, Yann Marguet, fêtera ses 39 ans ressentis, 48 avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, Manon, comme on parle de sexe aujourd'hui, pour une fois, vous avez choisi de rester sur ce thème pour votre veille sanitaire.
Évidemment.
Vous revenez sur le fait qu'il n'est pas si facile pour les jeunes de s'éduquer sexuellement sur les réseaux.
Et non, on l'a dit et on le sait, les réseaux ont beaucoup d'avantages niveau sexe. Ils permettent de briser des tabous, de donner la parole à des communautés trop souvent peu exposées et de se sentir moins seul quand on a un problème d'ordre privé. Ceci étant dit, les comptes qui parlent de sexualité doivent aussi faire face à beaucoup de barrières. Des barrières que leur imposent directement les plateformes. Et oui, comment parler porno par exemple quand le mot est banni de TikTok ? Comment parler orgasme sans que notre compte soit signalé ? Même en 2023, il n'est pas si facile de parler sexe sur Internet. C'est pour ça d'ailleurs que certains trouvent des subterfuges hein, comme par exemple remplacer le mot porn par corne, parce qu'ils se ressemblent, ou biper les mots considérés comme problématiques, ou encore mettre des émojis pêche et aubergine pour faire comprendre visuellement de quoi on parle. Sauf que ça commence à énerver pas mal de TikTokers et d'Instagrammeurs qui ont des comptes spécialisés dans l'éducation sexuelle, des coachs, des médecins, des journalistes, dont les comptes sont bannis ou shadowban parce qu'ils parlent de sexe.
Pardon, mais c'est quoi shadowban ?
On peut le traduire par bannissement furtif. Alors c'est une technique de modération très employée par les réseaux sociaux, en particulier par Instagram. Elle a pour but d'invisibiliser le compte de quelqu'un. C'est-à-dire que ses publications ne seront plus mises en avant par l'algorithme, encore qu'il sera impossible de trouver son compte dans la barre de recherche, même quand on tape son nom. Et la personne en question, en plus, ne sera même pas prévenue. Bref, c'est une technique très critiquée, notamment par les femmes hein, qui se retrouvent shadowban après avoir posté une photo où apparaît un bout de fesse. Hein, par exemple, les actrices porno en font régulièrement les frais. Mais elles s'emploient aussi donc quand des comptes parlent de sexe, même quand il s'agit d'éducation. Une gynécologue indienne hein, s'était fait shadowban, par exemple, juste parce qu'elle avait un dessin d'utérus en photo de profil, alors que c'était justement le sujet de son compte. Vous, Camille, ça a été déjà le cas avec Je m'emballe clito ?
Oui, absolument. Beaucoup moins maintenant, mais ça a été le cas il y a 5 ans. Quand je commençais, et pour compléter en plus la définition, il ne faut pas oublier que les mots aussi sont shadowban. C'est-à-dire que là, moi je n'ai pas de bout de fesse sur mon compte Instagram, et pour autant, quand je parlais de certaines notions, ça sautait, et on se retrouvait exactement avec ce que vous disiez.
Et pourtant, les réseaux se disent être des endroits où parler de sexe est autorisé. Quand on regarde, par exemple, les politiques d'utilisation de TikTok, il est écrit que c'est une plateforme où les gens peuvent venir discuter, apprendre sur la sexualité, le sexe ou la santé reproductive. Pour Meta, même chose, un porte-parole du groupe avait dit que les contenus qui parlaient de sexe positif et qui amenaient des discussions sur le sujet étaient aussi autorisés.
Manifestement, c'est pas le cas.
Non, et c'est un vrai problème, car encore une fois, ça renvoie le message que parler de sexe est forcément sale, que c'est tabou, que dire les mots clitoris et pénis, ce n'est pas acceptable. Alors qu'en plus, on l'a dit, les jeunes sont en demande. Selon une étude, par exemple, du passage du désir, 37% des 18-30 ans disent avoir besoin d'éducation sur la sexualité. Les réseaux devraient donc être une safe place pour eux, d'autant plus quand on voit ce qu'il se passe actuellement dans certains pays, comme les États-Unis, où l'avortement est interdit dans 14 États. Il ne faut pas invisibiliser la parole à ce sujet. Pareil, quand il s'agit de parler de consentement, de viol, de zone grise, et j'en passe, car l'éducation sexuelle aujourd'hui ne se limite plus à montrer comment enfiler un préservatif avec l'aide d'une banane. Elle englobe un tas de sujets importants qu'il ne faut pas négliger, aussi bien pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Alors évidemment, je le précise, il faut quand même toujours faire attention aux comptes que l'on suit ou que vos enfants suivent sur les réseaux, car certains pratiquent aussi de la désinformation à tout va ou disent des approximations, ce qui peut être quand même très problématique dans l'éducation sexuelle d'un ado qui se construit du coup sur des mauvaises bases.
Merci Manon, je vous ai rarement senti aussi à l'aise sur une chronique. Je t'aime peut-être. Et vous pouvez commencer à sortir les cotillons, car dans quelques secondes nous allons fêter comme il se doit l'anniversaire de Yann Marguet. C'est juste après More Than a Love Song, Black Pumas sur Inter.
Side of a great divide, fly together. Your master, grandmaster, why? Last him, I feel so hard sometimes. We got the use to music, sweet soul music, to reignite your soul tonight, to reignite your soul. Cause life is more than a love song. It's more than a fantasy, more than a little bit. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy, more than a little bit. So take your time and realize, fly. My respects to the grandmaster for the line. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more than a love song. It's more than a fantasy, more than a little good. This life is more.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Alors, on ne va pas sabrer le champagne avant sa chronique, ni après d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le budget, mais on fêtera son anniversaire quand même, une fois qu'il se sera penché à son tour sur l'éducation sexuelle. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu, est-ce qu'on peut rester coincé? Voilà la dernière question que j'ai jamais posée lors d'un cours d'éducation sexuelle. J'avais 13 ans, j'étais mi-ado, vous savez, cette sensation d'avoir une gastro, mais en fait pas. J'avançais contre le vent dans un typhon, que dis-je, dans un ouragan de mal-être lié à la question sexuelle, mais comme personne ne voit vos larmes quand vous pleurez sous la pluie, même pas vous-même. Tout ce qui sortit de ma bouche devant l'infirmière scolaire fut « Est-ce qu'on peut rester coincé ?» Ou plus réalistement « Est-ce qu'on peut coincé ?» Il faut vous dire, braves auditrices et auditeurs, qu'à l'instar d'autres vieillards autour de cette table, je viens d'un temps où les réseaux sociaux n'existaient pas, où le terme « PD » était une insulte en vogue, où le clitoris s'élevait tout au plus au rang d'opinion, et où le média roi, la télévision, désignait le sexe, la baise, le fion, la bouillave comme des moments coquins. Alors on s'en doutait bien que c'était plus que coquin, on le sentait à l'époque, que coquin, ça marchait mieux pour parler du chat qui avait ouvert la boîte de Raffaello que de ce qui se passait dans notre slip. Seulement voilà, malgré l'intuition, il fallut attendre. Attendre la première fois pour voir, attendre la deuxième fois pour apprendre, et attendre Anne-Sylvie, femme rieuse aux pieds nus, rencontrée à un concert de Max Romeo pour découvrir que les moments coquins, ça sentait pas toujours l'eucalyptus. Peu à peu, la cloche du tabou qui recouvrait le grand plateau du cul se soulevait et nous laissait entrevoir ces mille et impossibles. Enfin, nous savions. Alors nous savions, comprenez-moi bien, on est toujours des demeurés, on ne peut pas sortir d'une secte qui nierait l'existence de la sexualité et devenir Maya Mazorette du jour au lendemain. Moi-même, à 39 ans, je ne suis pas bien sûr d'avoir tout compris au concept des règles. Bon, quand on me dit pansexuel, je pense tout de suite à Peter Pan. Et surtout, s'il n'y a pas pénétration, la soirée est foutue. Il y a donc fort à parier que si Elvire, 15 ans, bisexuelle depuis 3 ans, dont je lisais le portrait dans Le Monde en préparant cette chronique, venait me dire à moi qu'être bi à 12 ans est un acte politique, je serais bien emmerdé, hein, je dirais, oui, peut-être, quoi, je sais pas. C'est peut-être ça qui a le plus changé, au fond, entre ma génération et la leur. Ils savent tant de choses. Ils savent que la sexualité hétéronormée est un construit social. Ils savent que l'orgasme n'est pas une obligation. Ils savent que rien n'est honteux si c'est consenti, à part peut-être dire « Appelle-moi Christine Lagarde quand tu me baises ». Mais même, moi, à leur âge, je savais faire semblant d'enlever mon pouce. Voilà. Bon. Franchement, ça se demandait pourquoi ce ne sont pas les ados qui nous apprennent la sexualité. Parce que ce serait extrêmement malsain. Et pénalement répréhensible. Et c'est pour ça qu'il y a vous, Camille Aumont-Carnel, vous et les autres, hein, les jamis du cul, science et vie pipou, hein, qui vous occupez de combler grâce aux réseaux sociaux le grand vide de l'éducation sexuelle avec des comptes Instagram comme Je m'emballe clito. Parce qu'au final, depuis mon adolescence, il n'y a pas grand-chose qui a changé au fond. À l'école, c'est toujours banane, capote et MST. Les parents, maintenant, c'est des gens comme moi, donc c'est pas gagné. Et le porno, pire qu'avant, il n'y a même plus besoin de le chercher. Au contraire, il faut l'éviter. Ce qui a changé dans le paysage cul. Donc, c'est bien vous, Camille. Vous et la jeunesse, bien sûr, il ne faut pas oublier que nous, on avait les tabous, certes, mais la contrepartie sympa, c'était l'insouciance. Eux ont accès à toutes les infos, mais forcément, ça vient avec un certain poids. Hein. Déjà qu'à leur agenda, ils ont dû ajouter « sauver le monde » dans la même case où nous, on marquait « skate ». En plus, ils ont devant eux un éventail de choix et d'orientations sexuelles qu'ils analysent, qu'ils décryptent, qu'ils interrogent sans cesse au point d'oublier une question fondamentale à laquelle je réponds néanmoins avec plaisir « non ». On ne peut pas rester coincé.
Merci beaucoup Yann Marguet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, évidemment. Et chose promise, chose due, qui de mieux pour vous fêter votre anniversaire que vous-même? Encore bravo Yann Marguet, le Rémi Bricat de la glotte. Ce tour-là, vous ne le faites pas dans votre spectacle. Oh là, il sait toujours le faire. Il n'est pas dans le spectacle, hein. C'est un peu décevant d'ailleurs ça. Il faudrait l'ajouter.
Écoutez,
au spectacle.
Ouais, mais ce sera mon prochain hit pour le prochain spectacle.
À la scène libre, toujours à Paris.
Oui,
toujours du vendredi au samedi, mais pas le jeudi, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Oui, c'est ça. Ça vous arrange pas, quoi, le jeudi. Merci Camille Aumont-Carnel de nous avoir parlé d'éducation sexuelle. Je rappelle votre dernier livre qui sort donc le 5 octobre, Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités, aux éditions Le Robert. Merci encore. Merci à tous, les amis, Manon Mariani, Quentin Lui, Ghislain Fontana était à la réalisation, Dienab Sangaré à la technique, et merci à notre rédacteur en chef remplaçant, Bruno Donnet. Bruno, que j'ai oublié de remercier pour son intérim lors de notre toute dernière émission de la semaine, celle du vendredi, mais par chance, cette émission ayant été enregistrée cet après-midi, tout à fait exceptionnellement, parce que Bruno devait rejoindre son manoir du Val-de-Marne. Je peux lui dire au revoir maintenant, mon Bruno.
Salut.
Salut. Ah oui, c'est chanson générationnelle. Sardou, quoi.
Évidemment.
Je suis venu vous dire
salut.
Votre chanteur préféré pour un adieu, je pensais que ça s'imposait. Merci vraiment du fond du cœur, Bruno Donnet.
Merci à vous, c'est un plaisir, Mathieu, salut.